Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nous sommes le 17 janvier, c'est le 65e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre congolais. Pour sa fille, sa disparition visait à éliminer l'idée même de la souveraineté véritable de l'indépendance réelle du Congo. Vous suivrez Juliana Lumumba. Dans ce journal aussi, ce SOS pour l'indemnisation et le relogement de plus de 100 familles du quartier Boyoma dans la commune de Kinshasa, ici à Kinshasa. Elles vivent dehors depuis la démolition de leur habitation il y a 2 mois, alors qu'elles détiennent des documents légaux. La coalition DESC qui les accompagne appelle le gouvernement central à s'impliquer. Le mariage précoce en fléau Kasaï central, près de 4 filles sur 10 sont mariées avant 18 ans, avec des conséquences sur leur santé et leur avenir. Nous recevons pour cela Merveille Sangilola, coordinatrice de l'ONG Amour Plus, qui lutte contre ce phénomène dans cette province. Bonjour à tous. 17 janvier 1961, 17 janvier 2026, cela fait exactement 65 ans depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais et l'un des pères de l'indépendance. Figure emblématique de la lutte pour la souveraineté africaine, il est tué à 35 ans au Katanga. Sa mort après son renversement et son arrestation en fin 1960 symbolise une tragédie post-indépendance. À l'occasion de cette commémoration, je vous propose d'écouter ce que sa fille, Juliana Lumumba a dit du combat de son père il y a quelques années. Elle a été interviewée par Alain Hirung dans le cadre de l'émission Grand Témoin réalisée en 2009.
Ce que je peux dire, c'est que l'assassinat de mon père, ça a été surtout l'assassinat de l'idée de la souveraineté véritable du Congo. Parce qu'il était question à l'époque de donner l'indépendance sans réellement donner tous les acquis, sans quitter la colonisation. Et donc, comme il incarnait lui-même, la dignité de l'homme africain, comme il a incarné sa souveraineté nationale. Donc l'idée, c'était d'assassiner cette idée d'indépendance réelle pour le Congo. Est-ce que le fait d'incarner son pays, d'être pour la dignité de son pays à ce niveau-là, est une erreur? Et il a incarné cette idée de souveraineté nationale, cette idée d'indépendance qui est allée au-delà du Congo, c'est à l'Afrique. Et je ne connais pas beaucoup d'hommes d'État africains qui ont laissé des noms de rues en Russie, en Égypte, en Guinée. J'ai même trouvé en Italie un monument dédié. Donc, cette idée qui est allée au-delà et qui a incarné cette réelle indépendance, cette souveraineté, elle est là.
Notez que vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission Grand Témoin de Juliana Lumumba demain dimanche 18 janvier à 8h05, rediffusion à 20h heure de Kinshasa ou encore sur www.radiookapi.net. En Ituri, la MONUSCO multiplie des actions de proximité pour renforcer la protection des civils et consolider la confiance avec les communautés locales. Sensibilisation, patrouille conjointe et intervention d'urgence traduisent l'engagement des casques bleus aux côtés des autorités et de la population. Dans les territoires de Djougou et d'Irumo, par exemple, les soldats de la paix népalais indonésiens viennent de mener plusieurs activités dans le cadre du mandat de la mission des Nations Unies. Objectif, réaffirmer l'engagement de la MONUSCO en faveur de la protection des civils, du sauvetage des vies et du renforcement de la confiance avec les communautés. Le colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO, nous parle de quelques-unes de ses actions au micro de Martial Papimukeba.
Le 7 janvier, le contingent népalais de la MONUSCO à Fataki a tenu un engagement communautaire au centre de Djougou en présence des autorités ainsi que des représentants des FADC et de la police nationale congolaise. Les échanges ont souligné l'importance du signalement rapide des incidents, de la communication régulière avec la mission et du renforcement des mécanismes d'alerte précoce pour une réponse efficace et la préservation de la stabilité. Dans cette même dynamique, le 10 janvier, à la suite d'une alerte communautaire signalant un civil grièvement blessé par balle, le contingent népalais a assuré les premiers soins à la base de Bayo avant l'évacuation de la victime vers l'hôpital général de Fataki. Le 9 janvier, l'équipe d'engagement féminin du contingent indonésien, en coordination avec la base de la MONUSCO à Bogoro et la police nationale congolaise, a mené une patrouille de dominance à Bogoro, Babiasi, afin de renforcer la protection des civils et de consolider la confiance avec les communautés.
Le colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO. Toujours en Ituri, un calme précaire a été observé hier vendredi à Boulé, un centre de négoce situé à 91 km au nord de Bounia. Nous sommes là. Pardon, dans les territoires de Djougou. C'est après des affrontements qui ont opposé hier matin les FARDC aux miliciens de la CRP de Thomas Lubanga. L'armée a définitivement pris le contrôle de ce centre commercial après plus d'un mois d'occupation par ces miliciens. Toute la journée de vendredi, les forces loyalistes ont poursuivi le ratissage dans la région. Selon des sources locales, après avoir été défaits à bout les centres, certains miliciens de la CRP ont pris la fuite vers les villages de Kaou, Liri, Wiri et dans le groupement de Soumbousso dans la chefferie de Baïmanor. Au Nord Kivu, les prix des produits agricoles de base et articles manufacturés connaissent une hausse significative depuis quelques semaines dans les marchés du chef-lieu du territoire de Walikale. La société civile locale qui sonne l'alerte note un renchérissement particulièrement marqué de la farine de manioc. Selon un acteur de cette structure citoyenne, une mesure des farines de manioc qui se vendait il y a quelques mois à environ 200 francs congolais se négocie aujourd'hui à près de 2000 francs congolais. Pour lui, cette inflation est liée à la hausse des coûts de transport entre Walikale et Goma et Walikale Bukavu, une situation qui est consécutive à l'impraticabilité de routes et à la multiplication des barrières illégales. Maître Patient Toubouni, acteur de la société civile locale, plaide pour une intervention urgente des autorités.
Les motards ont haussé le prix des transports par kilo qui a passé de 3000 francs à 5000 francs congolais. Et les motards s'expliquent que ce sont les multiplicités des barrières qu'il faut assez qu'ils puissent rehausser le prix parce qu'ils déboursent plusieurs sommes d'argent s'acquittant sur ça ici en cours de voyage. En réponse à cette situation, les mamans qui vendent leurs produits de première nécessité, notamment des bananes et autres, la farine, ont aussi rehaussé les prix pour essayer d'équilibrer leur situation. Il est nécessaire que les autorités politico-administratives locales puissent s'impliquer, de réunir les associations sans but lucratif des transporteurs et différentes agences et les coopératives agricoles afin de trouver une solution durable à ces problèmes. Et aux autorités provinciales et nationales, de penser à la réhabilitation de la RN3 reliant Walikale et Kisangani, étant donné que c'est sur cette axe d'où proviennent les camions remorques avec plusieurs marchandises qui peuvent répondre aux besoins de Walikale.
Rappelons qu'à la suite des actes de violence consécutifs à la guerre de la rébellion du 1-23 dans la partie est du secteur de Wanyanga, le chef-lieu de Walikale a accueilli des milliers de déplacés, ce qui provoque une forte demande sur le peu de produits vivriers disponibles dans cette zone à vocation minière. À Kinshasa, la coalition de la société civile pour la promotion et la protection de droits économiques, sociaux et culturels, DESC, appelle le gouvernement congolais à indemniser et relocaliser des centaines de familles dégarpies illégalement du site de la Funa. Lors d'un point de presse tenu mercredi, cette structure de la société civile souhaite que des espaces expropriés ne soient pas réattribués à d'autres personnes au détriment de vrais propriétaires. De son côté, un cadre du service de l'urbanisme et habitat de l'hôtel de ville explique que ces opérations de démolition visent à prévenir des inondations et autres catastrophes naturelles. Explication Blaise Ndongala.
Plus de 100 familles du quartier Boyoma dans la commune de Kinshasa dorment à la Belle Étoile depuis plus de 2 mois après la démolition de leurs habitations. Ces ménages regrettent que l'opération de l'hôtel de ville ait été menée de nuit et affirment n'avoir pas eu le temps nécessaire pour évacuer leurs biens de valeur. Les représentants indiquent qu'ils disposent de tous les documents légaux les autorisant à bâtir sur ces sites et demandent aux autorités de procéder à leur indemnisation. Ces familles, ensemble avec la coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, demandent à la Cour constitutionnelle d'annuler ces actes de démolition pour inconstitutionnalité. Ils reprochent également au gouvernement provincial de Kinshasa d'avoir violé les droits fondamentaux de la population en matière de logement et de propriété, comme stipule l'article 48 de la Constitution. En octobre dernier, le député national Steve Mbikaye s'est même interrogé devant l'Assemblée nationale sur cette logique qui conduit les services de l'État à délivrer des documents et pour les remettre en cause des années plus tard.
Le ministère des Droits humains affirme suivre de près l'affaire Dilemo Mosingo, un taximan moto incarcéré depuis près d'une année sans procès à Kinshasa. Le ministre Samuel Mbemba a réagi dans un communiqué parvenu ce vendredi à Radio Kapi. La vidéo de ce motard au visage amaigri et à la voix éprouvée est devenue virale sur la toile. Elle relance le débat sur les incarcérations liées à des faits jugés bénins. Ces informations de Blaise Ndongala sont rendues ici par Grace Amzati.
Dans son communiqué, le ministère réaffirme l'engagement et la volonté du gouvernement souminois de promouvoir et protéger les droits humains, notamment dans le cadre des procédures pénales. Il insiste sur un principe fondamental, Samuel Mbemba précise, je cite, « La liberté est la règle, la détention préventive l'exception, conformément à la Constitution, aux lois nationales et aux instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC. » Fin de citation. Le texte souligne également que toute atteinte à ces principes constitue une violation des droits et libertés fondamentaux. Le ministère appelle en outre les autorités judiciaires à veiller strictement au respect de la présomption d'innocence qui implique, sauf exception prévue par la loi, la liberté de la personne poursuivie durant la procédure. Alors que l'affaire continue d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux, ce dossier remet en lumière une problématique récurrente en RDC, celle des détentions prolongées sans jugement et des prisonniers privés.
Retour en Ituri pour parler des difficultés de fonctionnement du centre de santé de Zoumbé. Nous sommes dans les territoires de Djougou. À la base, un manque d'approvisionnement en médicaments. Ce centre n'y dispose pas non plus de salles d'accouchement ou encore d'opérations dignes. Conséquence, plusieurs cas d'intervention chirurgicale se font dans des conditions déplorables. Le conseil provincial de la jeunesse a visité cette structure sanitaire jeudi. Il plaide pour un appui à ce centre de santé. Marcia Kisabiamungo nous en dit plus.
Les centres de santé des Zoumbé dans la zone de santé de Fataki fonctionnent difficilement depuis plusieurs mois. Cette structure qui pratique plus de 400 cas de césarienne en cas de complications d'accouchement et d'autres interventions chirurgicales n'arrive plus aujourd'hui à assurer correctement la prise en charge des malades. Selon les responsables de cette structure médicale, des femmes accouchent sur des lits en planche ou carrément sur le sol avec des équipements limités en cas d'intervention chirurgicale. Les conseils provinciaux de la ce qui vient de visiter ce centre de santé appelle les autorités provinciales et nationales ainsi que les organisations humanitaires à intervenir de toute urgence pour venir en aide à cette structure sanitaire afin de sauver des vies humaines dans cette entité du territoire de Djougou. Déogracias Bungamuzi.
Que ce centre de santé soit priorisé par la construction des équipements d'une maternité, mais également une salle d'opération quand même qui répond aux normes.
Des notables des Zoumbé parlent d'une situation d'urgence et demande aux animateurs du programme de développement en cours Star Est d'insérer dans son plan d'action la construction d'un bâtiment adéquat pour ces centres de santé, les seuls dans la région. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Kampala, la police a dispersé hier des manifestants à coups de gaz lacrymogène après l'annonce des premiers résultats de l'élection présidentielle. AfricaNews.net rapporte que des incendies ont été allumés dans plusieurs rues avant d'être éteints par les forces de l'ordre. Selon la commission électorale, le président sortant Yoweri Museveni est en tête du scrutin avec plus de 70% de voix selon les résultats provisoires. Au pouvoir depuis près de 40 ans, Yoweri Museveni cherche à prolonger son règne dans un pays qui n'a jamais connu des transitions pacifiques depuis son indépendance en 1962. Le Tchad a annoncé hier la mort de 7 de ses soldats lors d'un affrontement à la frontière soudanaise. Il impute cette attaque aux forces de soutien rapide FSR de groupes paramilitaires en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023. Cet incident survient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, déjà marquées par des violences répétées. Nous ne pouvons tolérer que nos forces de défense et de sécurité soient entraînées dans ce conflit, ni que des Tchadiens en meurent, a déclaré le porte-parole du gouvernement tchadien. C'était lors d'une conférence de presse. Il a qualifié cet incident de dernier avertissement aux parties belligérantes. Le 26 décembre 2025, deux soldats tchadiens avaient déjà été tués dans une attaque de drone attribuée au FSR.
L'invité.
Au Kasaï central, le mariage précoce reste une réalité préoccupante. Selon les dernières données, près de 4 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans et cela a de lourdes conséquences sur leur santé et leur avenir. Face à ce fléau, l'ONG Amon Plus s'engage depuis 2022 dans la lutte contre les mariages précoces au Kasaï central avec l'appui de l'UNICEF. Mervin Sangilola, sa coordinatrice et notre invitée, elle s'entretient à ce sujet avec André Katendengalamouloumé.
Merveille Sangilola, bonjour.
Bonjour.
Avec l'appui de l'UNICEF, Amour Plus a un projet pour lutter contre le mariage d'enfants. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser au mariage des enfants?
Dans notre partenariat permanent avec l'UNICEF, nous avons choisi de nous intéresser à la lutte contre les mariages d'enfants parce que c'est vraiment une situation très préoccupante dans la région du Kasaï. Selon la dernière étude MIX, le Grand Kasaï a un taux de 42% des filles qui se marient avant 18 ans. Ça, c'est vraiment une situation très préoccupante. Environ 4 filles sur 10 se marient avant 18 ans. C'est vraiment une violation grave de droits des enfants.
Avec votre structure, vous étiez sur le terrain. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est à la base de la persistance de cas de mariage d'enfants ici au Kasaï?
C'est vrai qu'il y a plusieurs causes qui vraiment occasionnent le mariage d'enfants, mais la cause principale au Kasaï reste les normes sociales. Tant qu'on n'aura pas réussi à convaincre les leaders coutumiers de transformer les normes sociales défavorables pour les normes sociales favorables, on ne va jamais arrêter les mariages d'enfants. Les normes sociales qui disent qu'une fille qui a déjà vu ses premières règles doit être mariée pour préserver sa virginité, qui institue le sororat, les lévira. Si je peux parler d'autres causes des mariages d'enfants que moi je considère comme secondaires, c'est la pauvreté des parents. Dans plusieurs territoires de notre province, les parents vous disent, voilà, on marie notre fille parce que nous avons beaucoup d'enfants, on ne sait pas prendre en charge tous les enfants, on veut donc se libérer en donnant les filles en mariage.
Qu'est-ce que votre ONG a déjà fait ou est en train de faire pour lutter contre le mariage d'enfants?
Nous avons réussi à mettre en œuvre un programme d'autonomisation des filles et de renforcement de l'engagement communautaire. Nous avons mis en place des lieux de rencontre pour les filles où on a réussi à initier plus de 2000 filles aux compétences de vie courante. Ça veut dire apprendre aux filles, par exemple, à avoir une vision de vie, à se fixer des objectifs. Au-delà de ça, on a également permis à plusieurs filles d'apprendre un métier. Celles qui ont fait la coupée couture, elles vont recevoir des machines à coudre. Celles qui ont fait la coiffure, elles vont recevoir des kits de coiffure, la pâtisserie. Et nous travaillons avec les leaders coutumiers également dans la transformation des normes sociales.
Une fois que vous trouvez qu'une fille est déjà victime du mariage d'enfants, qu'est-ce que l'ONG fait?
Alors, lorsqu'on rencontre une fille déjà victime de mariage d'enfants qui se retrouve dans un foyer, c'est vrai que la procédure est quand même complexe. C'est difficile de la détacher de son foyer. Il faut arriver à convaincre la famille et convaincre également le bourreau. C'est possible de dissoudre ce mariage pour les biens de la fille tout en préservant un climat de paix. Parce qu'on n'aimerait pas que nos actions créent des conflits, surtout lorsqu'il y a déjà des enfants dans ce foyer. C'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas encore réussi à détacher une fille mineure de son foyer.
Qu'est-ce qui doit être fait pour limiter le mariage d'enfants dans la région du Kasaï?
Je pense qu'il faut d'abord que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons des lois. D'abord, le code de la famille. Nous avons la loi portant protection de l'enfant. Nous avons la convention relative aux droits de l'enfant qui a été ratifiée par notre pays. Tous ces instruments juridiques mettent un accent sur le fait que le mariage d'enfants est prohibé. Les auteurs de violences sexuelles sont poursuivis. Mais malheureusement, les auteurs de mariage d'enfants circulent librement. Pourtant, c'est une violation grave de droits de l'enfant. L'État doit prendre ses responsabilités dans la mesure où il faut commencer à traquer les auteurs de mariage d'enfants et les parents qui marient leurs enfants avant 18 ans. Je vous assure que les parents auront peur et même les bourreaux auront peur parce qu'ils vont se rendre compte que si je pousse une fille de moins de 18 ans, je serai arrêtée. J'encourage déjà tous les efforts qui sont faits au niveau tant provincial que national, mais il faudrait que notre gouvernement puisse renforcer des mesures. Au-delà de ça, il faut également des programmes assez vastes de transformation des normes sociales avec les leaders coutumiers. Il faut également autonomiser les filles.
Merveille Sanguilola, nous rappelons que vous êtes coordonnatrice de l'ONG Amour Plus. Nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à vous qui venez de suivre ce journal qui a été préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Bon week-end à toutes et à tous.